Merci Nicolas. C'est le texte du jour et nous l'avons choisi indépendamment de notre sujet. Donc félicitations de cette heureuse coïncidence que bien sûr va nourrir notre réflexion de la même façon qu'elle a pu être nourrie aussi par quelques strophes des cantiques. Vous l'avez vu tout à l'heure, cet appel au repas fraternel et puis aussi cette petite phrase dans le verset 3, car il voudrait chasser les tiens. Là, par contre, ce choix-là n'était pas une coïncidence. Renvoie la foule, disent les disciples. Cette foule, elle est composée de gens, évidemment, de gens simplement qui n'avaient pas envie de partir. C'est leur caractéristique. Ils n'étaient pas des misérables. Ils avaient, comme l'a dit le texte, simplement besoin de paroles, d'une part, et aussi de guérison, de soins. Alors, vous l'avez entendu, et c'est intéressant de le noter d'emblée, que les disciples donnent un ordre à Jésus, renvoient la foule. Donc, celui de dire à ces gens d'aller directement, pour rester poli, d'aller se faire considérer ailleurs. Et ou pour employer cette nouvelle langue à laquelle personnellement je n'arrive pas à m'habituer, dire que ces gens n'ont pas vocation à rester ici. Cette injonction des disciples, à mon sens, rappelle les injonctions dans ce qu'on appelle l'opinion. L'opinion, c'est compliqué. C'est, on va dire, j'ai envie de la considérer comme une demi-déesse pathétique, qui semble régulièrement ordonner des choses aux gens, aux dirigeants, une opinion qui s'incruste en nous pour nous dire ce qu'on croit déjà ou ce qu'on pense, au travers de sondages qui sont autant, à mon sens, d'invocations. Parmi ces oracles, il y a l'ordre de, par exemple, de renvoyer des foules. Des foules qui sont en fait des personnes qui demandent asile et sécurité et qui ne sont pas forcément des misérables. Alors, les dirigeants, le plus souvent d'ailleurs, obéissent ou le prétendent. Passons sur le fait qu'ils peuvent jouer avec cette opinion et l'instrumentaliser. Et puis au fond, cette opinion, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'est qu'une demi-déesse ou est-ce qu'elle n'est rien du tout en fait? N'est-elle qu'une marionnette? Bien pratique. Et l'autre question, c'est qui dirige, sont-ce les dirigeants ou alors l'opinion? L'opinion en grec s'appelle la doxa et qui signifie aussi étrangement la gloire, doxologie. Alors les Grecs, quand je dis les Grecs, c'est un peu sommaire, mais distingueraient ce qu'ils appellent l'épistémé, c'est-à-dire le savoir, de la doxa, qui est une prétention à la connaissance sans base solide. Et dans ce texte, la doxa des disciples s'habille d'objectivité. Ils sont des milliers et nous n'avons rien, ou presque rien. Ce qui ressemble fortement à des affirmations tout autant incontestables comme « on ne peut pas accueillir tout le monde » où il y a des limites au partage, ce qui est incontestable, où il n'y a pas de travail, de pain, de médecin pour tout le monde, ce qui est incontestable, n'est-ce pas? Donc, mais il se trouve que Jésus n'est pas un dirigeant, ce qui change un peu la donne. Il n'est pas un dirigeant, mais il est un maître avec de l'autorité, nuance. Il n'a donc que faire de l'opinion, car il préfère la véritable connaissance. Et cette connaissance est celle de la, pour lui, de la substance de la Torah. Et elle est liée à la vérité. La vérité, pour Jésus, et selon Jean, ne peut être qu'insérée au milieu d'un chemin, comme celui qui a conduit toute cette foule de non-misérables à Jésus, ne peut être qu'insérée au milieu du chemin et de la vie, cette vie qui se présente à Pilate, qui demande qu'est-ce que la vérité, et cette vie, c'est la personne de Jésus, ou c'est la vie qui a été évoquée au cours de cette assemblée. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dira-t-il dans l'évangile de Jean. Jésus on le sait, n'avait pas une grande affection pour la gloire qui aurait pu le concerner et n'aurait sans doute pas aimé la gloire que cette doxa antinomique à la vérité pourrait lui conférer s'il lui obéissait, s'il obéissait à l'injonction de renvoyer les foules. Si bien qu'il ne renvoie pas la foule, mais il renvoie ses disciples à leur responsabilité. Et là, c'est là que le texte de Luc est toujours un peu sauvage, un peu habile et intéressant. Il leur ordonne « Donnez-leur vous-même à manger. » Sous-entendu, « Voilà la vérité de votre service dans le monde. Voilà la vérité de votre service. Donnez-leur vous-même à manger. » C'est comme si un dirigeant disait tout à coup, et face à un afflux de réfugiés, « Allez-y, allez dans les camps, allez sur les plages, regardez-les, considérez-les comme autre chose que des flux, des hordes ou des statistiques, et aidez vous-même ceux que vous vouliez me voir faire partir. » Et juste ici, je ne l'ai entendu que de la bouche de Jésus dans l'Évangile. À ce contre-ordre, puisqu'on peut l'appeler ainsi, donnez-leur vous-même à manger, de nombreuses personnes, et y compris dans cette paroisse, membres de nombreuses associations, à ce contre-ordre, de nombreuses personnes obéissent. Parfois, ils obéissent dans une certaine forme d'illégalité. Mais ils y vont. Ils donnent à manger, ils aident au logement, ils accompagnent des démarches administratives, ils ne se contentent pas de se fondre dans une opinion de sondage. Mais ils répondent, et souvent, à la place d'un État dont ils ne croient plus en la providence. Beaucoup le font au nom de leur foi, mais aussi beaucoup le font à cause d'une foi qui n'arrive pas ou qu'il n'arrive plus à mettre en mots ou en prière. Juste parce que ce « donnez-leur vous-même à manger » résonne dans leur cœur. Pourtant, là où ils sont tous ces gens, il n'y a pas grand-chose. Dans le texte, c'est 5 pains, 2 poissons. Et ce qu'ils sont eux-mêmes n'est pas grand-chose finalement. Des bras, un peu de temps, de courage, une conscience, une âme. Tous mangèrent et furent rassasiés et on emporta 12 paniers de morceaux qui étaient restés. Et en plus, c'est ce qui est fabuleux dans ce texte et d'autres semi-parallèles, et en plus, il en reste. Ce qui reste pour nous, c'est l'espoir de ce texte. Il en reste. Il reste de l'espoir. Amen.